Bon, comme je vous l'avais dit, vous avez donc la chance d'accueillir aujourd'hui, pour la première fois au Collège de France, il va y avoir, ça s'est encore jamais fait, on n'a jamais eu d'hommes préhistoriques qui sont venus tailler là des outils. Donc, vous avez la chance de pouvoir accueillir trois collègues. Qui sont Hélène Roche, qui est directeur de recherche au CNRS et qui est université, alors oui, on dit comme ça maintenant, Paris-Ouest Nanterre. Jacques Pellegrin, qui est la même université, directeur de recherche au CNRS aussi. Et Pierre-Jean Texier, qui est aussi directeur de recherche au CNRS, mais qui, lui, est CNRS Université de Bordeaux 1. Tous les trois sont des préhistoriens connus, très connus et reconnus sur le plan international. Tous les trois ont accepté de bien vouloir venir vous montrer comment nos ancêtres, entre guillemets, s'y prenaient pour faire des outils taillés. Donc, je vais leur laisser la parole. Alors, si vous voulez bien, pour eux, vous voyez, on a déjà pris un peu de retard, c'est de ma faute, et j'en rajoute là. Mais il leur faudra un peu plus d'une heure pour que la séquence soit... Bon, on raccourcira peut-être les questions-réponses à la fin. Toujours est-il qu'il y en aura et ce sera possible. Hélène, messieurs, c'est à vous.
Bien, bonjour à tout le monde. Je pense que nous remercions monsieur le professeur Brunet de nous avoir invités à venir vous parler un peu de nos cailloux, si je puis dire. Et personnellement, je remercie mes deux collègues de bien vouloir se livrer à cet exercice devant vous. Exercice auquel ils sont très habitués, bien sûr, mais si vous voulez, en général, quand ils taillent, c'est plutôt pour résoudre des problèmes archéologiques, pour comprendre, mais aussi pour transmettre et pour montrer un peu ce qu'est le travail à l'amont, je dirais, de toutes les études techniques qu'on peut faire. Alors, on va faire comme ça. Moi, je vais vous parler 5-10 minutes, des fondamentaux de la taille de la pierre. Alors, je prie les collègues, ceux qui sont dans la salle, qui connaissent déjà bien ça, de m'en excuser, mais je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Sur quoi la taille de la pierre repose vraiment. Et ensuite, ça sera à eux de vous montrer pratiquement comment la taille de la pierre se déroule. Je vais d'abord vous parler très rapidement des matières premières. On peut dire dans l'ensemble que les hommes préhistoriques ont taillé à peu près toutes les roches qu'ils avaient à leur disposition, ou plus exactement, toutes les roches qu'on trouve dans le monde naturel, je veux dire, sont pas toutes, mais presque toutes sont taillables, à des degrés divers, avec plus ou moins de facilité. Mais dans l'ensemble, la plupart des roches disponibles dans l'environnement sont taillables. Alors là, je vous ai juste mis un petit échantillon de roches, mais bien sûr, elles sont beaucoup plus nombreuses que ça et surtout très variées dans leur qualité et dans la façon dont elles se présentent. Il y a ce que vous connaissez tous et en premier, les roches sédimentaires comme le silex, qui a été une des roches les plus taillées tout au cours de la préhistoire, à l'exception près qu'au tout début, dans les périodes très anciennes sur lesquelles je reviendrai deux minutes, ce sont plutôt des roches volcaniques qui ont été taillées. en Afrique orientale. Mais enfin, le silex, alors vous en avez plusieurs exemples sur l'écran. Et puis, c'est surtout ce que nos collègues vont tailler parce que c'est ce qui est très, très facilement disponible. Il y a des gîtes, il y a des sources auxquelles ils peuvent aller s'approvisionner. Et donc, c'est là qu'ils vont s'approvisionner et c'est assez facile à trouver. Donc, le silex, ça sera plutôt par ici. Les roches, donc, comme je vous, les roches éruptives, toutes les laves qui ont été beaucoup beaucoup taillées par les premiers hominidés en Afrique orientale. Sur l'écran, vous avez un exemple qui est la phonolite de Kapiti, dont j'ai un exemplaire ici sur une expérimentation faite par Pierre-Jean Texier. Mais vous avez toutes les types de laves, des roches effusives, éruptives. Qui étaient disponibles dans l'environnement. Et là, je vous ai apporté une trachyte. Et en fait, c'est un objet archéologique. C'est un des proto-bifaces d'un des plus vieux sites HLA1 du Kenya, sur un des sites sur lesquels on travaille. Alors, donc, les silex, les laves, et puis quelques roches métamorphiques comme le quartzite. Vous en avez sur l'écran et deux petits exemplaires ici, c'est aussi du matériel archéologique que vous pourrez voir plus tard. Ensuite, comment se présente la matière première dans l'environnement? C'est assez variable. Pour les plus anciens hominidés, c'était plutôt un ramassage au hasard. Mais avec un choix quand même, bien sûr, en fonction de la qualité des modules et des morphologies des blocs de départ. Et puis ensuite, ça pouvait être, plus on avance dans le temps préhistorique, plus il y a eu une recherche de très grande qualité sur les matières premières et des recherches de filons particuliers, de gîtes particuliers, où on venait s'approvisionner, où les hommes préhistoriques venaient s'approvisionner. Donc la taille de la pierre, qu'est-ce que c'est? Là, je vais faire très vite. C'est une activité idéomotrice, donc qui met en jeu des facultés intellectuelles, d'intelligence, le cerveau, et bien sûr la main. Et cette activité est apparue, pour ceux qui étaient là, j'ai fait un séminaire l'année dernière sur mon travail en Afrique de l'Est. Les premières attestations de taille de la pierre en Afrique orientale remontent à 2,6 millions d'années. C'est très vieux et c'est une activité qui est unique aux primates humains, donc à nous et à nos ancêtres directs. Alors, qu'est-ce que ça requiert? Là, c'est un petit clin d'œil pour nous trois, parce que vous avez là Jacques Tixier, qui a été mon professeur, mon maître, je dirais, et à peu près tout ce que je sais sur la technologie, je l'ai appris d'abord de lui. Et donc, je le prends toujours comme cobaye pour expliquer ce que requiert la taille de la pierre. Alors, ça fait beaucoup sourire Jacques, mais je... Hein? Oui, un modèle, pardon, oui, c'est plus juste. Merci. Et voilà, donc qu'est-ce que la taille de la pierre requiert? Je vous ai dit que c'est une activité idéomotrice, donc le cerveau, bien sûr, qui doit prévoir, anticiper ce que les mains vont faire. Les yeux, c'est très important, vous pouvez l'imaginer. Il faut une vision binoculaire pour pouvoir... Vous me rectifiez si je dis des bêtises, hein, pour pouvoir appréhender les points d'impact et c'est une activité, vous allez voir, qui est très rapide, qui est un peu de l'ordre de la balistique en fait. Donc il faut viser en fait, et après que le geste accompagne la vision. Les mains, bien sûr, mais en fait vous verrez que c'est pas seulement les mains, c'est les mains, les avant-bras, et la plupart du temps, d'une certaine façon, tout le corps participe à l'activité. Et bien sûr, matière première et percuteur. Alors, vous pouvez toujours prendre un bloc de matière première et puis taper dessus de façon erratique ou incontrôlée, et vous n'obtiendrez ou rien ou un éclatement de fragments et de débris. Mais la taille de la pierre, c'est à l'inverse, c'est une fracturation, mais qui est totalement contrôlée, qui répond en fait à une sollicitation. C'est un matériau qui répond à une sollicitation technique très forte, très violente, qui est un coup. Mais le coup provoque des ondes de choc concentriques, initie un cône et se détache alors, selon un principe physique qu'on appelle la fracture conchoïdale, se détache des éclats. Voilà, la fracturation contrôlée. Alors, vous avez là, sur l'écran, la fracturation contrôlée permet de produire des éclats, et c'était dans un premier temps, et tout au début de la préhistoire, ça a été ça qui a été recherché, c'est de produire des éclats avec des traits diagnostiques particuliers. Vous aurez, peu importe, je dirais, les noms, mais bon, un talon, qui est l'endroit où on a frappé, qui est en fait un petit morceau du plan de frappe qui se détache du nucléus. Le bulbe de percussion, qui est en fait le reflet du cône initié par le choc. Et quelquefois, sur un matériau très, très dense comme le silex, on voit très bien les ondes concentriques sur la matière elle-même. Et puis, parfois, des petits incidents parasitaires comme les esquimants de bulbe et les lancettes. Alors, bien sûr, faire un geste, le geste élémentaire de tailler, on détache un éclat. Maintenant, si on veut arriver à à quelque chose de plus, à une opération complète, bien sûr, on a en général un projet, comme dans toute action idéomotrice, avec un support conceptuel pour le mener à bien, et ensuite la réalisation de cette tâche. Alors, dans notre langage, on appelle ça une chaîne opératoire, et qui en fait, c'est la succession des actions qui mènent du matériau brut à l'abandon de celui-ci, en passant par l'acquisition des matériaux, la fabrication de l'outillage lui-même, son utilisation et plus tard son abandon. Ce processus qui part du projet jusqu'à l'abandon de l'outil, la réalisation de la tâche et l'abandon, s'appuie sur, et ça va être la démonstration qui va être faite, des connaissances, des savoir-faire, un savoir-faire, bien sûr une certaine habileté manuelle, et des techniques et des méthodes. Alors, je vous parle très rapidement des principales opérations de taille. C'est celles qui vont vous être démontrées là. La première, c'est le débitage, qui consiste à prendre un bloc de matière première et en extraire des éclats de façon plus ou moins organisée. Et c'est avec le temps, bien sûr, dans le temps, cette opération de taille va se développer, se perfectionner, s'améliorer avec des changements de technique. Dans ce cas de figure, le bloc de matière première de départ qu'on appelle le nucléus, duquel on va tirer des éclats, devient, si je puis dire, le rebut. Une fois qu'on en a tiré tout ce qu'on voulait en tirer, c'est un rebut, c'est un déchet, il ne servira pas. À l'inverse, ce sont les éclats qui en ont été tirés qui vont servir, en ayant été modifiés ou non, qui vont servir d'outils. Ces éclats peuvent être retouchés ou non pour être utilisés en tant qu'outils. La deuxième grande opération de taille, c'est ce qu'on appelle le façonnage. Là, on change de concept, si je puis dire. C'est une autre opération, différente. On prend un bloc de matière première et on le façonne. On le sculpte, si vous voulez. Enfin, on le façonne, toujours par les mêmes, avec des procédés et des techniques de taille, qui varient aussi dans le temps, pour obtenir un objet qui aura une morphologie bien définie. Et dans ce cas-là, c'est l'objet qui reste, qui est l'outil, et les éclats qu'on a retirés pour façonner cet objet sont des déchets. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas servir eux-mêmes comme outils, et ça a souvent été le cas d'ailleurs. Mais dans la conception, si vous voulez, dans la conception même de l'opération de taille, c'est ça qui se passe. Les techniques, ben c'est la façon d'opérer, si je puis dire. Je vous parle juste des techniques principales. La plus ancienne, celle attestée depuis toujours et qui a servi tout au long de la préhistoire, c'est la percussion directe, qu'elle se fasse comme ici au percuteur de pierre dure, qu'elle se fasse au percuteur de pierre tendre, ou qu'elle se fasse avec un percuteur organique, soit végétal, du bois, soit animal, du bois d'animal, éventuellement de l'os. Très peu attesté, mais c'est une possibilité. Donc, on taille la pierre avec un matériau moins dur qu'elle. La percussion indirecte, à ce moment-là, on place un intermédiaire entre la pierre et la matière première qu'on veut tailler et le percuteur lui-même. Ça, vous allez le voir aussi en vrai, si je puis dire. Et enfin, dernière grande technique, la pression. On peut, par pression, et ça vous sera aussi démontré, tailler, détacher des morceaux de matière première par pression sur la... Alors ça peut être... Il y a toutes sortes de... Oui, c'est absolument pas clair. Heureusement que vous allez avoir une démonstration parce que je vois que l'image est tout à fait illisible. On peut utiliser la pression pour retoucher et on peut utiliser la pression pour tailler, débiter. Et Jacques va vous montrer ça. Un mot sur les méthodes. Là, c'est un agent. Les méthodes, vous en parlerez parce que là, sinon, je vais prendre trop de temps. Voilà. Et je voulais surtout vous montrer ça. Ce tableau-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, la percussion directe au percuteur de pierre, c'est vraiment la technique utilisée tout au long de la préhistoire. Et ensuite, vous voyez la percussion directe au percuteur de pierre plus lourd, sur enclume, puis la percussion au percuteur tendre, etc. Il va y avoir des inventions, donc au fil du temps, au cours du temps, et qui vont modifier la façon d'opérer et les résultats, les matériaux, les outils obtenus. Je crois que j'ai assez parlé et je vous avais plutôt envie, mais c'était pour vous rappeler les fondamentaux de la taille de la pierre, vous avez plutôt envie de voir les tailleurs à l'œuvre. Alors, finalement, on va commencer un peu, je dirais, un peu chronologiquement. C'est-à-dire que Pierre-Jean va vous montrer, Pierre-Jean Texier va vous montrer les premiers gestes, enfin les gestes, le premier débitage, ce qui a été fait, la façon dont ça a été fait au tout premier temps de la taille de la pierre, décacher quelques éclats, laisser une petite série continue d'éclats sur un support, et puis il vous montrera comment on façonne un biface. Et voilà, on va commencer comme ça, et après, ce sera Jacques.
D'accord, bon. Voilà, je vais essayer de ne pas casser mon micro en même temps. Non, mais je l'ai, hein, donc, sur moi. Voilà. Donc, alors, je voudrais faire un petit rectificatif, tu m'as dit de corriger éventuellement, au sujet des matières premières. Puisque je pensais dire quelque chose d'un peu dans un autre sens, c'est que toutes les roches ne se taillent pas dans la nature, et que justement, ce qui fait, il y a une sélection qui est assez rigoureuse tout au temps de la préhistoire dans les roches qui sont disponibles. Et par exemple, on ne va pas pouvoir tailler un calcaire stratifié ou des choses comme ça. Oui, mais donc, ce qui a été taillé pendant la préhistoire sont essentiellement les roches volcaniques, les silex, bien entendu. Nous, on est familiarisé avec les silex en Europe, mais je pense tout au long de la préhistoire, c'est majoritairement des roches volcaniques, du quartz, du quartzite. Voilà. Comment ? Oui, des roches donc dures, homogènes et isotropes, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes propriétés, c'est ce qui les différencie des roches stratifiées, qui ont les mêmes propriétés dans toutes les directions. Donc c'est ce qui caractérise entre autres le silex. Alors, Hélène a parlé de des techniques. Donc, la première technique connue, c'est ce qu'on appelle la percussion directe au percuteur dur. Voilà des percuteurs. Alors, vous voyez que vous avez vu les photos des percuteurs de Local LA qui sont déjà des galets avec des surfaces protubérantes et arrondies. Pour nous, nous utilisons, et on en connaît une grande quantité de préhistoriques, des galets le plus réguliers possible. Alors, l'intérêt de cette sélection, et qui a été faite donc à partir de 2 600 000 ans, c'est que le galet est donc une surface régulière qui est en général en roche tenace. Et quand on y ajoute la vitesse, vous voyez qu'au moment de l'impact, il va libérer une grande quantité d'énergie. Et l'intérêt de travailler avec des surfaces ellipsoïdales ou sphériques, c'est qu'on va concentrer en un seul point toute l'énergie qu'on va communiquer au percuteur. Donc ça a été la grande découverte par les premiers tailleurs, c'est que donc on contrôle, d'une part, c'est la sélection des matériaux, donc apte à la taille, et d'autre part, la concentration en un seul point, le point d'impact du percuteur sur le plan de frappe, de l'énergie qu'il a communiquée au percuteur. Avec, dès les premiers, on peut dire, les premiers moments de la taille, avec une grande précision dans le geste, hein, puisque à Local LA, donc 2 340 000 ans, on a des nucléus qu'on fournit assez petits, guère plus gros que ça, qui ont fourni jusqu'à 70 éclats. Donc, ce qui prouve qu'il y avait déjà une grande précision dans le geste et déjà des notions de production. Voilà, alors je vais vous montrer un débitage très simple, c'est-à-dire le détachement de quelques éclats adjacents sur un bloc de silex qui a à peu près la morphologie de ce qu'on a à Local LA. C'est-à-dire que les premiers tailleurs de Local LA ne savaient pas maîtriser en quelque sorte la troisième direction de l'espace, hein, c'est-à-dire l'épaisseur, donc la gestion des plans de frappe. Et on réussit par une sélection assez rigoureuse de la matière première, en sélectionnant des blocs qui forment un dièdre ici, avec ce qu'on va voir être deux futurs plans de frappe qui forment cette angulation, ce qui leur évite d'avoir à ménager un plan de frappe, à détacher des séries d'éclats sans faire de réaménagement dans la troisième direction d'espace. Donc maintenant, le jeu consiste à... Vous voyez que je retourne le nucléus, la face qui va produire les éclats et là sur ma cuisse, et donc l'éclat va partir par-dessous. Et le percuteur va faire un geste comme ça. On peut tailler également debout, hein, ça à la main, dans ce que je vais faire. Hein. Voilà, vous voyez, donc un premier éclat avec tous les stigmates de taille que l'on vous a présenté, le talon, le bulbe, les lancettes sur le côté qui sont orientées vers le point d'impact et les ondes concentriques qui partent du point d'impact vers l'extrémité. Là, le choc a été un peu violent. Et qui montrent où, quand on a seulement un fragment d'éclat, à quel endroit se trouvait le point d'impact et le bulbe. Tout ça sont des éléments qui nous servent dans le diagnostic des pierres taillées. Ce sont les principes élémentaires, mais ce sont les clés de lecture des outils taillés préhistoriques. Ils montrent l'intentionnalité, ils montrent la chronologie des gestes, puisque là, je vais détacher ici un deuxième éclat, mais je vais le faire suffisamment près pour qu'il recoupe le premier, et vous allez voir que sur le deuxième, il va manquer une partie des stigmates de taille. Voilà, j'ai détaché le deuxième éclat, donc il recoupe le premier. Et donc, sur le négatif du premier, il va manquer toutes les lancettes qui étaient à l'origine. Et voilà, vous voyez les mêmes caractéristiques de l'éclat. Mais on voit très bien, en regardant de près le nucléus, que cet éclat a été enlevé après celui-ci. Donc, on a déjà une chronologie entre le premier et le deuxième. Et ça, sont les clés élémentaires d'analyse des pierres taillées. Donc là, on peut enlever deux, trois éclats de ce côté-ci. Là, j'étais un petit peu fort. Hein. C'est du silex. Malheureusement, on n'a pas de roche volcanique pour... Voilà. Et donc, si je veux continuer à débiter en utilisant toujours les mêmes points de frappe, je vais passer de l'autre côté. Et je peux retirer une autre série d'éclats. Et ainsi de suite. Bon, là, il y a un petit problème de...
C'est la matrice de section triangulaire.
Voilà. Et donc, deux, trois éclats d'un côté, deux, trois éclats de l'autre, et on peut descendre sans modifier la géométrie du nucléus de départ et sans avoir à aménager ce qu'on appelle des plans de frappe, ce qui est déjà une opération plus délicate. Voilà. Donc ça se trouve de manière assez courante dès l'Oldowayen, mais pas toujours, mais si tu veux rajouter... Non ? Voilà. Voilà, là vous avez les principes élémentaires qui ont de ce qui a été utilisé, puis démontré, publié, vous le verrez dans les publications, à propos de Local LA, donc un site de West Turkana au Kenya. Voilà, donc alors là c'est le débitage de plusieurs petites séries d'éclats adjacents. Alors maintenant on va avancer de 600-700 000 ans dans le temps.
Plutôt un million d'années.
Un million d'années, oui. Non, 2003, 7, 6, 13.
Oui. Ouais.
Puisque le premier HLE1, le plus ancien, est aux alentours d'un million sept, 1 700 000 ans, à peu près.
Oui, je vais remontrer avec la caméra, comme ça tout le monde le verra. Un des plus vieux bifaces qu'on ait trouvé en Afrique de l'Est. Tiens, tu peux le montrer. Qui est vraiment, comme vous le voyez...
Très simple, on peut dire. Donc, c'est une roche volcanique, c'est un trachyte.
C'est une trachyte, oui.
Une trachyte qui est légèrement stratifiée, d'ailleurs. Hein. Enfin, donc, c'est un galet au départ. Hein. Donc, on voit que c'est un galet avec les deux faces ici, des méplats, etc., duquel on a détaché quelques grands éclats. C'est le début du concept bifacial, c'est-à-dire le détachement sur une face et sur l'autre, le travail d'un matériau de manière bifaciale. Et bon, là, c'est extrêmement rudimentaire. Hein. Voilà, il a une bonne pointe. Donc, se rappeler que dans le débitage, les produits recherchés, ce sont les éclats, c'est-à-dire qu'on va créer du tranchant et utiliser ces éclats. Dans le façonnage, les éclats qui vont tomber du façonnage ne sont pas les produits initialement recherchés. Ce qu'on sculpte la matière première, et c'est la matière première sculptée à l'issue de ce travail, qui est le produit recherché. Éventuellement, quelques éclats pourront être sélectionnés dans les déchets de taille pour faire des produits secondaires, mais ce ne sont pas les produits initialement recherchés. Voilà. Bon. Cet objet vénérable. Voilà. Alors, donc là, on va passer à le façonnage d'un biface. Ça va prendre à peu près un quart d'heure. J'ai amené ici une dalle de silex de la région de Bergerac, pour ceux que ça intéresse, qui a été un petit peu travaillée pour le transport, parce que c'était dans mon bagage à main, donc c'est un petit peu lourd. Et puis également pour tester la matière première, pour ne pas... Alors, un des tests de matière première, il est sonore. Vous entendez le son cristallin. Au départ, ce n'était pas le cas, il y avait quelques fissures que j'ai enlevées. J'ai purgé le bloc en quelque sorte, et quand on entend ce son-là, on sait que le matériau est sans fissure. Hein. Et sinon, il donne un son fêlé, oui, creux. Voilà. Alors, le biface, vous l'avez tous en tête, un biface classique, peut-être moins sommaire que celui qu'on vient de voir. Quand on veut façonner un biface, eh bien, il faut le placer mentalement dans le bloc, déjà. Voilà, on l'a ici. Hein. Donc, vous voyez, ça sera à peu près à la même échelle, grosso modo. Et donc, on se place en position de manière à imaginer le biface dans ce plan de symétrie et commencer à organiser l'enlèvement des éclats qui vont permettre de façonner. Alors, un des problèmes majeurs qu'on a au début, ce sont souvent ces méplats, ici, qui empêchent le travail bifacial. Il faut donc, en utilisant la première technique, souvent la percussion à la pierre, se créer une arête par enlèvement alternes pour pouvoir ensuite travailler avec une technique plus efficace pour le façonnage bifacial. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais déjà attaquer l'enlèvement de mes plats ici. Vous voyez, donc je vais enlever une série d'éclats, je retourne la pièce de manière à chaque fois le négatif d'un éclat me sert de plan de frappe pour le suivant. Ah. Aïe. Allez, j'ai pas de chance. Non. Là, c'est un peu embêtant. Hein, c'était pas du tout prévu, j'essaie de voir. Non, c'est ce qui est délicat avec le silex. Bon, écoutez, là, je suis un peu pris au dépourvu. Hein. Bon, alors, je vais essayer d'en faire un objet plus petit là-dedans. Alors, il faut que je rattrape la. Pourtant, il sonnait bien au départ, donc voilà. Des choses qui arrivent, mais là j'ai pas pu apporter de matériel de secours. Voilà. Alors je vais passer à une autre technique, la percussion directe au percuteur organique. Là, je vais utiliser pour travailler un percuteur en bois d'élan. Percuteur tendre. Est à la fois très tenace et qui est très dense et qui permet de travailler. On va plus là, on va travailler directement sur les bords de manière à enlever des éclats qui vont être couvrants, envahissants, qui vont permettre de travailler sur les deux faces. Alors, au passage, je vais préparer les futurs points d'impact de manière à les renforcer pour que la matière première supporte le choc.
Si je peux rajouter un détail, on a trouvé récemment dans la fouille du site de Boxgrove en Angleterre.
Ah oui.
Dans de la Choléen, un percuteur en bois de serre, tout à fait similaire à celui que Pierre-Jean emploie à l'instant.
Deux. Il y en a deux, il y en a un en bois de serre et un en bois de mégacéros.
Formidable. Ouais.
Voilà, alors là, pour l'instant, je prépare les bords du, ce que j'espère devenir le futur biface, de manière à pouvoir le travailler de manière bifaciale. Là, c'est uniquement de l'aménagement des bords. C'est un petit peu... Voilà, pour enlever ce qu'on appelle les méplats. Et après, on va passer vraiment à du façonnage bifacial. Vous voyez qu'avec le percuteur tendre, on obtient des éclats qui sont extrêmement minces, très couvrants, et qui ont d'autres caractéristiques qu'on verra peut-être sur des produits meilleurs à suivre. Donc ça, c'est du travail de préparation, je vous l'ai dit, pour que le bord sur lequel je vais frapper résiste à l'impact qui est assez violent. Vous voyez que les éclats sont extrêmement minces. Donc pour l'instant, c'est du travail. Je ne cherche pas à aménager la forme directement. Je suis en train de travailler sur le volume de la pièce pour équilibrer la répartition des masses et aménager les plans de travail, supprimer ces méplats ici. Alors là, il y a encore un méplat à ménager. Alors, ça va se faire comme tout à l'heure, en espérant que je n'aurai pas les mêmes conséquences. Donc, vous voyez que je retourne, pour supprimer mes plats, je retourne la pièce pour enlever un éclat sur une face, un éclat sur l'autre. Voilà, donc là, les volumes sont à peu près bien équilibrés. Et maintenant, je dois faire des choix. Je vais faire un petit objet, finalement. C'est un petit peu dommage.
Il n'est pas si petit que ça. Hein. Simplement, tu veux faire un bifascore de
non,
forme.
Mais j'étais parti pour faire de l'achelé africain.
L'avantage avec les homo sapiens, c'est qu'ils peuvent tout faire parce qu'ils connaissent.
T'en as déjà fait un.
Ce qui a été fait dès les origines jusqu'à. Et c'est parfois plus difficile pour un homo sapiens actuel, expérimentateur ouais. comme ils sont eux, de remonter dans le temps et de faire un travail d'homo erectus, voire d'homo habilis. Mais Pierre-Jean y arrive assez bien, que de faire un travail de sapiens. Je dis toujours à Jacques qu'il est très sapiens et ça l'énerve.
Ah. Bon, là, j'ai un petit problème. Voilà. Et ça, ce sont des éclats caractéristiques du percuteur tendre, très mince avec un talon déversé, assez large et très fin, et déversé sur la face inférieure.
Là, tu travailles assez vite. Hein.
Comment ?
Tu travailles assez vite, là.
Oui, un peu.
C'est la pression de la foule.
Oui.
On est toujours pressé.
C'est la pression
non,
du temps.
Non, c'est pour dire que dès les stades d'achelin supérieur, c'est-à-dire en Europe 300, 400 000 ans peut-être, en Europe, il y a régulièrement une préparation des bords, comme Pierre-Jean le fait... de temps en temps.
Là, je ne le fais pas tout le temps, compte tenu du matériau aussi, mais... Voilà. Mais par exemple, sur la phonolite, il faut le faire, hein, parce qu'il faut donner des coups très violents, parce que c'est une roche tenace, plus dure à tailler, et c'est indispensable. Donc je vais essayer de commencer à travailler sur la morphologie du biface, la forme. Là j'ai un percuteur du coup qui est un peu trop gros pour le travail que je fais, puisque... On adapte en général le choix de ces outils en fonction du module qu'on travaille. Donc toujours là, du travail de préparation pour mieux contrôler les éclats. on arrive à une forme petit à petit, vous voyez, triangulaire. Hein.
Enfin, bon, ce n'est pas un très grand défaut puisque ça existe.
Oui, ça existe.
Ce qu'on appelle des bifaces, vous en avez vu deux exemplaires, un archéologique très très vieux. Et un autre expérimental fait par Pierre Jean sur de la phonolite. Celui qu'il est en train de faire aura, bien sûr, c'est pas la même matière première, et il aura une autre forme. En fait, tout au long de l'Acheuléen, qui est une période qui dure aussi extrêmement longtemps, si vous voulez, on a l'Oldowéen qui va durer plus d'un million d'années, 1 200 000 ans à peu près. Donc ça, c'est vraiment les débuts, à partir de 2,6 millions jusqu'à 1,6 millions à peu près. Donc ça fait un bon million d'années. Ensuite, l'Acheuléen qui commence en Afrique orientale également, enfin qui commence vers 1 million, entre 1,6 million et 1,7 millions, les premiers outils acheuléens. Et cette seconde grande période technoculturelle de la préhistoire va durer, elle aussi, 1 million d'années à peu près. Alors évidemment, ça correspond aussi à la sortie d'Afrique. Enfin, les hominidés qui ont taillé les premiers bifaces ont émigré, si je puis dire, ont conquis une grande partie de l'ancien monde. Mais avec une grande variété, une grande variabilité dans leur manière de faire, dans leur manière de tailler la pierre. Et dans les morphologies qu'ils ont obtenues pour leur biface. Il y a aussi dans certains endroits des acheuléens qui n'ont pas ou pratiquement pas fait de biface. Donc il y avait un équipement technique différent des faiseurs de biface. Les acheuléens à biface, si je puis dire, n'ont pas fait que des bifaces, bien évidemment. C'est l'outil un peu emblématique de l'acheuléen. Mais ils ont fait aussi beaucoup ce qu'on appelle des hachereaux, qui est en fait aussi un outil bifacial, mais un peu à l'opposé du biface. Un biface, c'est une pointe opposée à une base arrondie, je dirais plus ou moins arrondie, alors que le hachereau, c'est un tranchant transversal opposé à une base aussi arrondie. Donc c'est un tout autre outil conçu différemment, toujours dans le principe du façonnage, et qui a été beaucoup, beaucoup fabriqué aussi pendant l'acheuléen, et beaucoup en Afrique, essentiellement en Afrique. Ensuite, à côté de ça, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que quand on fait des bifaces, comme vous pouvez voir, on produit une quantité importante d'éclats, et bien malgré tout, à côté de cela, les acheuléens ont débité des nucléus pour produire aussi des éclats. Donc en fait, ce sont bien deux chaînes opératoires différentes, avec des objectifs différents. C'est pour ça que je dis qu'il y a une différence de concept entre les deux. Et les deux vont de pair, c'est pas exclusif, c'est-à-dire qu'on a fabriqué des bifaces, on a façonné la matière première, avec ça on a obtenu des éclats, mais malgré tout, à côté, on a aussi débité des nucléus pour obtenir des éclats, peut-être plus robustes, de formes différentes. Voilà, ce sont deux chaînes opératoires qui ont été concomitantes dans la plupart des acheuléens, et notamment dans l'acheuléen africain.
Presque terminé. Je suis en train de lisser un petit peu les bords rapidement.
Là, Pierre-Jean est en train de faire ce qu'on appelle le travail de finition. Hein. Il a d'abord ébauché, mis en forme, et maintenant il termine l'objet, il régularise les bords.
Voilà. Régularise les bords, supprime les quelques irrégularités de surface. Bon, pour obtenir, là j'ai travaillé un petit peu vite, hein, mais bon, c'est nécessaire parce que voilà, un biface triangulaire.